Marceau le midi. La référence pour votre horoscope puis vos avis de décès. Voici Marceau, Pascal CV et Tom Gauthier.
11h28, vous avez des choses à nous dire, c'est le 88-971-1021, 88-971-1021. L'extrait que vous venez d'entendre, c'est peut-être un humoriste que vous connaissez si vous regardez un peu ce qui se passe dans le coin de l'Europe. Moi, c'était la première fois que je l'entendais en spectacle. J'ai vu quelques-uns de ses films et il nous fait le bonheur d'être présent en studio parce qu'il va avoir un spectacle à Québec le 9 octobre prochain au Capitole de Québec. Et il est avec nous. Son nom, c'est Philippe Lelouch. Il est comédien, metteur en scène, cinéaste. Bonjour, M. Lelouch. Comment allez-vous?
Bonjour, je vais super bien. Je suis hyper content d'être là.
Est-ce que vous avez un bel accueil au Québec?
Oh là là, mais on ne peut pas rêver mieux. Et puis c'est formidable parce que, en fait, je ne sais pas à qui je m'adresse. Vous voyez ce que je veux dire? Je fais des radios, des télés, ouais. Je vois plein de gens et je... Oh, c'est sympa! Mais je ne sais pas s'ils sont connus, pas connus.
Découverte.
Si, voilà. Ce sentiment d'être largué comme ça, il est très, très bon.
D'être largué?
Ouais, oui, largué. Ah, largué. Alors voilà, le genre d'expression que tu dis, c'est
parce
d'être
perdu.
Parce
que nous autres, c'est vous mettre par dehors. On pourrait vous sortir
non,
par
alors,
la fenêtre.
Non, quand on est largué, ça veut dire qu'on ne sait pas où on est. Nous, en France, c'est l'expression, okay. On est loin. Quoi. On
nous,
sait pas
largué, ouais. Sinon, c'est aussi laisser quelqu'un.
Ah, laisser quelqu'un. La rupture, je l'ai largué, ça veut dire je l'ai quitté.
Mais vous savez pas à qui vous adressez, mais mes collègues vous connaissent, puis il y a même quelqu'un qui était super fan dans nos collègues qui...
Thomas.
Ça fait 3 fois qu'il passe devant la fenêtre là, depuis que vous êtes en studio
c'est
avec
vrai,
nous.
C'est vrai,
mais je dois
mignon.
Être honnête, moi je ne vous connaissais pas du tout.
Mais c'est normal, vous êtes trop jeune. En fait, si vous aviez été enfant... Ah si, alors vous auriez pu, parce qu'il y a une série... Vous avez des séries françaises ici qui passent?
Oui.
Il y a une série très populaire dans laquelle j'ai joué en France, ça s'appelle Clem. Qui était voilà bah, bon, donc c'est pas passé ici.
Non.
Et voilà, et je jouais une espèce de beau-père idéal extrêmement okay. Sympa avec les enfants, toujours amoureux de sa femme hystérique et tout ça qui est toujours voilà et du coup ça m'a rendu très populaire chez les mamans et les jeunes filles.
Okay.
Voilà, parce que comme mais sinon mais voilà, mais c'est bien d'arriver en territoire quasi inconnu, je dis quasi parce que j'ai tourné quelques films d'ailleurs ici. Mon premier film de cinéma, je l'ai tourné à la Malbaie. C'était Michel Vaillant. Ouais. Et y a une culture extrêmement commune. Mais moi, je suis absolument fan du Québec à tous les étages. Et j'arrive ici sur la pointe des pieds parce qu'en humoriste, vous avez du lourd là.
Wow,
c'est du solide là, comme vous dites.
Qui pour vous est lourd?
Ah bah, déjà celui qui me fait le bonheur de travailler avec moi, Jean-Michel Anctil.
Oui.
Et puis
oui.
il y a Stéphane Rousseau. Enfin, il y en a mille des humoristes. C'est-à-dire, la narration est une tradition chez vous, même le stand-up, parce que vous avez eu la chance d'avoir cette influence américaine. Nous, le stand-up, c'est vraiment assez récent en France. Ça a une dizaine d'années que les comedy clubs s'installent, etc. Oh. Parce qu'avant, c'était l'humoriste en France, c'était un mec qui faisait des sketchs. Il prenait un personnage, il faisait un sketch, il faisait le noir dans la salle, il revenait avec un autre personnage, etc. Le stand-up, c'est-à-dire l'humoriste qui s'adresse aux gens pendant 1h30 en face à face, ça, c'est très récent, en fait.
Mais vous ne vouliez pas être comédien, vous ne vouliez pas être metteur en scène. Vous avez commencé, vous étiez journaliste,
ouais.
Vous avez une formation en journalisme.
Ouais. Oui, j'étais même grand reporter, mais c'est ce qui était... Si, en fait, j'ai toujours voulu être comédien, mais ça me paraissait extrêmement compliqué, parce que les premiers cours de théâtre que j'ai pris, moi... On m'apprenait à faire le fœtus, l'arbre et tout ça. Je me disais, oh, je vois pas comment je vais passer au cinéma. Tu vois, j'arrivais pas à comprendre le trajet en me disant, ça va être compliqué. Donc, j'avais repris des études de journalisme. Et puis, j'ai un frère qui fait ce métier-là aussi, qui est comédien en France. Et puis, finalement, quand lui a commencé à le faire vraiment sérieusement, j'ai commencé à comprendre. Et puis là, j'ai raccroché les wagons. Quoi.
Pourquoi Philippe Lelouch s'intéresse au Québec? Pourquoi vous décidez de venir faire des spectacles ici?
Parce que je pense que c'est vous les patrons. Je le pense sérieusement. Je pense que dans la francophonie, c'est vous les patrons du stand-up. Et que d'abord, j'aime bien les Québécois, vraiment, pour mille raisons.
Mais vous foutez la paix d'abord et avant tout, parce que vos fans de l'autre côté, Outre-mer, là, il paraît que c'est assez intense. Merci. Là, vous avez encore vos vêtements, je suis heureuse de le voir.
Ouais,
je vois votre attaché de presse qui hoche la tête. Oui, c'est plus agressif.
Non, mais parce que j'aime... En fait, j'aime l'excitation. C'est vraiment bien d'aller à la conquête, surtout de gens qu'on respecte. Voilà, moi, j'ai toujours aimé ça. Voilà, j'ai toujours... Là, il y a des cinémas. Moi, j'ai pris des tartes hein, avec vous. Le premier, c'est Le déclin de l'Empire américain. Denis Arcand, moi, c'est waouh, il y a plus de 20 ans que j'avais vu ça. Je me suis dit, c'est quoi cette écriture là? C'est quoi ce génie? Ouais, et puis après, il y a eu La Grande Séduction, Starbuck, tout ça. Scott, là, il plaisante pas. Hein.
Ouais.
C'est des sacrés metteurs en scène, c'est des sacrés scénaristes. Et je me suis dit, waouh, Moi, j'ai envie d'aller là-bas, moi. J'ai envie de travailler avec eux, quoi.
Est-ce que vous vous êtes informé sur la façon de faire de l'humour au Québec? Parce que, bon, moi, j'aime beaucoup d'humoristes français. On oublie le nom, là, mais quelqu'un que j'ai découvert sur les réseaux sociaux dernièrement, sur TikTok, s'appelle Paul.
Paul Mirabel.
Paul Mirabel, ouais. qui me fait bien rire. J'aime beaucoup l'humour à la française, mais les Québécois sont pas nécessairement toujours portés à regarder ce que c'est que l'humour français puis s'intéresser à ça. Et à l'inverse, quand on reçoit des humoristes français ici, il y en a certains qu'on adore, mais c'est des humoristes qui s'adaptent. Est-ce que vous avez dû vous adapter aux blagues d'ici versus
alors
peut-être...
Non, pas dans au sens littéral du terme. Moi, j'ai demandé à Jean-Michel Anctil, qui est mon parrain, qui m'aide à adapter. C'est surtout les expressions. Par exemple, quand je dis tout à l'heure « larguer », voilà, on dit ça dans un spectacle, là, le temps que la personne qui vous écoute vous dit « qu'est-ce qu'il a voulu dire ?» Voilà, ouais. Il est passé à côté du gag, etc. Ça, c'est évidemment ce que je veux éviter. Donc, sur ce point-là, Jean-Michel m'apporte beaucoup. Et c'est surtout... je crois que c'est adapté, c'est vraiment... C'est pas retransformer le spectacle. Et moi, je pense que ma narration française, elle est compréhensible, je l'espère.
Ouais.
Donc, faut pas essayer de changer, parce que là, on perdrait... En fait, je viens pas à la conquête, moi. Je viens essayer de séduire. C'est pas du tout la même chose.
Puis on aime l'unicité ici, Yannick. Mettons qu'on parle d'humour et autres. On aime ça quand les gens se développent en tant... Oui, se démarquent, mais se développent en tant qu'eux aussi. Là, on n'aime pas trop le personnage de scène, oui, mais on n'aime pas trop quelqu'un qui se prend pour un autre. Là, on n'est pas comme ça. Jean-Michel Anctil vous a choisi ou vous avez choisi, Jean-Michel?
Alors, c'est un peu plus complexe que ça. Moi, je connaissais son spectacle. Je connaissais son travail parce qu'en France, j'avais suivi largement ce qu'il faisait, mais on ne se connaissait pas. Et c'est grâce à Nariman Doumanji, là, qui est ma manageuse ici, qui nous regarde, qui nous observe. Faut se méfier. C'est une astite folle. et donc, c'est elle qui a eu cette idée géniale. Elle m'a dit, est-ce que tu veux que... Je lui ai dit, ce serait merveilleux. Bon, et elle lui a montré mon travail. Et par chance, il a ri, il a aimé. Et il m'a dit, OK. Et là, on s'est rendu compte, d'abord, qu'on est de la même tranche d'âge et qu'on avait un univers extrêmement commun. On a même appelé une de nos enfants de la même façon. Vous voyez, c'est marrant. Donc, on a les trucs. Voilà. Donc ça, on s'est bien capté. Voilà. Après, il m'aide à me dire, bon, ça passera pas. Par exemple, j'utilise une expression quand je parle de mon père en voiture qui se retournait avec mon frère pour nous tarter. Ça, il m'a dit, je ne sais pas ce que ça veut dire. Parce que pour nous, une tarte, ça n'a pas du tout la même signification. Donc, tarter, c'est mettre des gifles.
Okay.
Voilà. Donc, vous voyez, c'est des trucs comme ça où il me dit, ça, faut que tu le corriges.
Donc,
parce
un
que
petit peu d'adaptation.
Oui, c'est ça. Mais en même temps, bon, voilà.
Parce que je trouvais que ça ne dérangeait pas de tout cochonner le char. Là.
Ouais.
Cochonner le char.
Au niveau de l'ouverture des blagues, est-ce que les Français sont plus ouverts aux blagues? Est-ce qu'ils vous restreignent par rapport aux blagues que vous pouvez faire? Parfois, moi, des discours qui peuvent dire, monsieur Lelouch, Philippe Lelouch est allé peut-être un peu trop loin de ce côté-là, versus au Québec où c'est très, très, très ouvert.
Oui, moi, je pense que c'est ouvert aussi. Enfin, on n'a qu'une obligation. En fait, moi, je pense qu'il n'y a absolument aucune limite.
Ouais.
J'avais un prof de philo il y a très longtemps qui me disait « il n'y a de limite que pour les esprits limités ». J'aime bien cette phrase-là.
Wow.
Et il m'a dit « mais en fait, on n'a qu'une obligation, c'est d'être drôle ». C'est-à-dire qu'il y a, en autre référence, vous avez trouvé que je fais mon Lucchini, là, mon Fabrice Lucchini, à faire des citations, mais il y avait Molière qui disait « toute morale directe est à prescrire au théâtre ». Et il a parfaitement raison. Moi, un mec qui veut essayer de me faire rire, mais qui me fait la morale, ça m'insupporte. Si je ne suis pas d'accord avec lui, mais que je le trouve drôle, c'est bon ça, même si je ne suis pas d'accord. Donc, l'idée, c'est le seul devoir qu'on a, c'est d'être drôle. Mais pousser les limites, je crois que c'est le principe d'un humoriste. C'est d'aller un petit peu choquer, sinon à quoi ça sert? C'est exultant. Enfin, moi, j'adore dire, oh putain, il a été là. Je suis dans le public, le mec il fait une match, oh la vache, il est gonflé. Mais si c'est drôle, bravo, j'applaudis. S'il me fait la morale, il m'emmerde.
Mais est-ce que c'est une crainte ça chez les humoristes,
Oui, je crois qu'en ce moment,
c'est au Québec.
Oui, je pense que c'est une crainte. Il y a des sujets sur comment. Si on commence à faire des vannes sur le Ramas ou sur les féministes, on sait qu'on va sur un terrain un peu compliqué.
Ouais.
Alors on a qu'un intérêt, c'est d'être drôle. Voilà, après la prise de risque, elle fait partie de ce métier. Moi, je pense que d'être artiste, c'est prendre des risques.
Mais voilà, quand on dit un Philippe Lelouch, à cet endroit-là, il ne faudrait pas y aller.
Oui, c'est là que j'ai envie d'y aller.
Oui,
c'est évidemment, il y a une part de provoque qui est nécessaire, oui.
Ouais.
Mais il faut être drôle, voilà.
Les films que vous avez faits, est-ce qu'il y en a d'autres qui sont en production présentement?
Je suis en train de tourner une série pour TF1 qui s'appelle RIP, comme Rest in Peace. C'est avec une comédienne française formidable qui s'appelle Claudia Tagbo, qui, en fait, c'est elle qui hérite d'une société, qui n'arrive à rien dans sa vie, genre de loser, là, grandiose, et qui hérite d'une boîte de pompes funèbres, mais elle n'a absolument aucune idée de comment ça fonctionne. Et comme elle n'a pas beaucoup de ronds, elle engage que des bras cassés, comme moi. Et donc, c'est assez drôle. C'est en fait des pompes funèbres tenues par des gens qui ne comprennent pas comment ça marche. Donc, en tout cas, on a tourné deux épisodes. On en tourne quatre autres au printemps, là. Et je m'amuse bien. Et moi, j'ai envie de faire des films après, comme réalisateur plutôt, puisque comme acteur, je m'ennuie beaucoup au cinéma.
Qu'est-ce qui vous ennuie en tant qu'acteur?
D'attendre. Je ne suis pas patient.
D'attendre entre les scènes.
Oh ah là, ça me saoule. Voilà, on attend beaucoup au cinéma. Jean Gabin, acteur français très connu, disait le cinéma, c'est de trouver une bonne chaise. C'est vraiment ça. C'est-à-dire que réaliser, on ne s'ennuie jamais. On raconte son histoire, on dirige les acteurs, on passe d'une scène à une autre. Mais acteur, la vache, des fois. Donc, j'adore en faire. Hein. Je ne suis pas en train de cracher dans la soupe. Mais je peux m'ennuyer. Et plus le temps passe, et plus je vieillis, et moins je suis patient. Voilà, donc j'ai des projets d'en faire comme réalisateur, mais là, je suis tellement dans le one-man show que j'ai envie que ça continue.
Est-ce que le stress est le même quand on est acteur ou réalisateur, ou c'est plus stressant peut-être être réalisateur?
Oh, je crois que c'est plus stressant d'être réalisateur.
Ouais.
Parce que le tournage n'est qu'une étape. Après, il y a le montage, il y a le mixage, et puis il y a l'accueil. Et puis c'est encore une fois 2 ans de travail souvent entre l'élaboration du scénario, le tournage et la sortie du film. Pour un résultat qui, dès le premier mercredi de la sortie, peut être effondrant. C'est-à-dire qu'on se dit, bon, ça ne marche pas. Voilà. Allez, merci, au revoir. 2 ans de ta vie en une journée. Et quand ça marche, c'est génial, mais c'est fait.
Voilà, on pardonne moins un réalisateur qu'un acteur, par exemple, qui fait partie d'un projet qui était mauvais au final.
Il ne faut pas qu'il les enchaîne, quand même, parce que le mec, quand il commence à enchaîner 3 ou 4 fours, comme on dit chez nous, ce n'est pas bon pour sa carrière. Mais,
ouais,
mais
c'est vrai qu'on autre chose, hein,
on lui pardonne moins, mais en tout cas, il n'y a pas... Voilà, le cinéma, on a joué, au théâtre, on joue. Voilà, et moi, ce que j'aime bien, c'est cette proximité et du sans-filet, et encore plus dans l'humour. Ouais. C'est terrible quand on sort une vanne et que personne rit. Dieu merci, ça ne m'arrive pas souvent, mais j'imagine que ça doit être épouvantable.
Vous avez une période de rodage?
Ouais. Alors ça, je l'ai fait, ça aussi. Ça n'existe que dans le stand-up, ça. C'est-à-dire qu'on va dans des petites salles où les gens payent un ticket très modéré pour vous écouter répéter. C'est quand même complètement dingue. Nous, au théâtre, on répète pendant un mois, 2 mois, dans une salle fermée avec les acteurs. Puis hop, un jour, on délivre. Là, non. Quand j'avais fini d'écrire, je pars avec mes fiches et je vais sur scène. Je dis, t'es sûr, on fait comme ça? Tout le monde m'a dit, ouais, fais comme ça. Et je me disais, les gens, ils sont gentils, comme ils viennent voir un truc. Donc je lisais mes fiches, puis je regardais s'ils riaient, s'ils riaient pas. Et c'est vrai que très vite. Alors,
vous apprenez ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas.
Ouais.
Parfait. Le 9 octobre prochain, Philippe Lelouch sera au Capitole de Québec. Est-ce que vous allez certainement nous parler un peu de nostalgie? Vous avez vu plusieurs générations passer.
Merci d'assister là-dessus.
Vous vous souvenez de votre passé. Moi, je vous rejoins quand vous parlez de slow, l'abolition des slow. Tom n'aura pas connu les slow dans les bars.
C'est parce que tu as perdu, Tom. Tu vois, et là, je m'amuse, tu vois, je m'amuse justement en parlant des slow, parce que c'était une façon de tomber amoureux en 3 minutes, ce qui était quand même un peu plus excitant que d'être sur Twitter avec des filtres, hein, tu vois, ou sur Instagram ou machin.
Philippe Lelouch, il croise sur Twitter?
Non, Twitter, c'est quand même le réseau. Non, mais Twitter, c'est vraiment le réseau de merde, quoi. Hein. Ouais. C'est vraiment le réseau c'est tous les gens qui, derrière des pseudos, c'est le réseau des lâches.
Ouais.
Il y a un truc qui, Twitter, c'est vraiment pas drôle. Instagram, ça, j'y ai pris goût, okay. C'est marrant. Mais Twitter, c'est un peu la lie de l'humanité, moi, je trouve. Voilà, il y a un truc un peu, tout le monde s'insulte et tout, on dit waouh.
Donc, c'est pas une place pour rencontrer. Non. C'était slow dans le temps.
Non. Alors que les slow, fallait se déplacer. Et puis, je dis pour rire sur scène en fait, si j'étais une féministe convaincue, je rendrais le slow obligatoire, moi, parce que, en fait, on a conscience aujourd'hui qu'il y a des hommes, visiblement, qui ont un problème avec le mot non. Ils ne savent pas ce que ça veut dire non. Bah, le mec qui a connu les slow, lui, il sait ce que ça veut dire non, dès le plus jeune âge, quand il a invité une fille.
Ça joue sur l'estime, mais vous aviez quand même le rôle ingrat de devoir inviter. C'était toujours sur vos épaules.
Bien sûr, mais c'est le rôle de l'homme, ça. On disait toujours l'homme propose, la femme dispose.
Et moi, c'est un filon que j'aurais aimé aller avec vous, puis on aura le temps.
Ben vas-y.
Dans l'humour, parce que vous avez un humour qui est beaucoup plus, comment dire, abrasif envers les femmes pour plusieurs Français. Ça fait partie de la culture, on en jase toujours.
Non, je ne suis pas abrasif du tout.
Mais est-ce que vous voyez un peu la différence entre...
Un homme et une femme?
Ben, ça, j'ose croire, mais le public français puis le public québécois là-dessus.
Non, je crois
que... Parce que vous avez dit, puis tu sais, on va le dire, quand vous avez dit, c'est une crise de folle.
Ouais.
Nariman qui est ici, c'est une inside joke entre vous.
Ouais.
Mais il y a des auteurs qui disent, ben voyons donc. Tu sais, déjà, t'sais, ben, pourquoi il dit ça d'une femme qui l'aide, qui travaille avec?
Mais si je dis c'est un crise de fou, est-ce que c'est moins choquant?
Mais surtout sur mon animateur, il n'y a pas de problème.
Non, non. Mais si je le dis sur un homme, est-ce que c'est moins choquant?
Non.
Eh ben alors, donc c'est vous qui êtes moins dans l'égalité que
donc
moi.
Donc, vous ne voyez pas, dans le fond, la différence entre les deux publics?
Ben non, mais je ne vois pas la différence, surtout entre un homme et une femme.
Mm.
Je la vois physiquement, je la vois à d'autres niveaux, mais je pense qu'on doit traiter les femmes comme on traite les hommes, avec une équité parfaite. Je fais partie de cette génération où je me dis on doit être un peu plus doux avec les femmes. Voilà, mais ça peut être pris pour du machisme. Mais moi, je considère qu'il y a une fragilité féminine que j'aime à considérer. Et que,
dans la sensibilité,
dans plein de choses, dans la force physique, etc. etc. Mais je pense que dans le traitement de l'humour, on peut dire à une femme qu'elle est moche comme on peut dire à un mec qu'elle est moche, qu'un mec qu'il est moche. On peut dire qu'elle est conne comme on peut dire à un mec qu'il est con. Je vois pas où est le...
C'est l'humanité avec un H majuscule.
Oui, bien sûr. Mmh. Là. Parce que là, sinon, la différence, elle est dangereuse. Voilà. Alors que moi, je suis pour que les gens s'aiment beaucoup.
Est-ce que la vie était beaucoup plus facile avant?
Oui, alors ça, incontestablement, oui. Non, mais c'est-à-dire que... Alors là, même toi, hein, t'es plus jeune, je le sais bien, mais moi, j'ai grandi à la fin des années 70, 80. Il faut comprendre un truc, c'est que tout était autorisé. La liberté était totale. Et là...
Sous quel pan? L'expression?
Je vais t'expliquer. Non, d'expression. Alors, ça, certainement, on voyait les gens... Par exemple, des humoristes, je vais t'en prendre deux qui étaient extrêmement connus en France, qui s'appelaient Coluche, qui était la star, et Thierry Leluron, qui était l'imitateur star. Bon, c'était des gens extrêmement connus en France. L'un était de gauche, l'autre était de droite, clairement. Ils ont fait semblant de se marier sur les Champs-Élysées, ils étaient extrêmement copains, etc. C'est-à-dire que rien, chacun avait ses idées, on les respectait. Aujourd'hui, tu as l'impression que tu appartiens à un camp ou à un autre. Déjà, si tu appartiens à ce camp-là, alors ce que tu vas dire, c'est dangereux. Bon, bref, c'est un truc qui très difficile. Mais même dans l'attitude. Nous, quand on était mômes, ce qu'on appelait un réactionnaire, vous avez ça au Québec? Vous comprenez cette expression-là?
Ouais.
Un réac, c'était quelqu'un qui voulait plus d'ordre et de sécurité. En général, c'était un vieux chiant. Il disait, il faudrait plus de police, il faudrait plus de... Voilà. Aujourd'hui, ce qu'on nous, qui sommes dits des réacs, c'est parce qu'on veut plus de liberté. Mais pourquoi? Genre, je vais vous la raconter en deux minutes, ma jeunesse, mais qui est la jeunesse de tout le monde. Par exemple, nous, on avait le droit de fumer partout dans les endroits publics. Alors, on nous a dit un jour, c'est interdit. Bah oui, on l'a accepté, l'interdiction. On sait que c'est mauvais, que ça peut faire du mal à la santé des autres. OK, on accepte. La moto, on l'en faisait sans casque. On dit, maintenant, il faut mettre un casque. Si vous tombez, vous risquez moins de vous tuer. OK, on accepte le casque obligatoire. La ceinture de sécurité en voiture, il faut la mettre parce que sinon, c'est dangereux. OK, on la met. Faut rouler moins vite parce que la vitesse, c'est dangereux. Bah OK, on va tous rouler moins vite. Mais à force de rogner sur toutes ces petites libertés avec un bon fond, avec un bon principe, on a eu le sentiment, et on a encore le sentiment aujourd'hui, qu'on a renié la grande.
Dans votre génération, majoritairement.
Voilà. C'est-à-dire qu'on se dit, waouh, on n'a plus le droit de rien faire, ce qui est totalement faux. On a encore le droit, qu'on aille voir dans les vraies dictatures. Mm-hmm. Là, on voit, aujourd'hui, on a le droit encore de faire plein de choses, mais on a ce sentiment qu'on n'a plus le droit de rien faire, parce que nous, on avait le droit de tout faire.
Et non balancer, ça peut créer des frustrations.
Voilà.
Yannick, tu te rappelles une des premières chroniques que j'ai fait avec toi, puis je t'avais amené des extraits de plateaux français à la télé. Moi, ça, c'est mes plus beaux moments, là, c'est ce qu'on vient de vivre, en fait. Dans l'argumentaire, dans la réflexion, c'est ce qu'on vient de s'offrir, en fait, à l'émission avec un français.
C'est gentil, ça. Ben,
non, mais vous avez une liberté d'expression, vous avez une philosophie de débat qui est fort plus intéressante que la nôtre. Vous avez ce droit-là, vous le donnez. Quand vous êtes en désaccord, là, ton monde, c'est un peu plus agressif. Des fois, il faut calmer les tensions, mais vous vous dites les vraies choses et après, vous vous tapez dans la main. Puis après ça, ben, le calme revient, puis on passe à autre chose. Puis vous êtes même ouvert à avoir peut-être des argumentaires qui ne sont pas nécessairement dans votre sens.
Mais vous avez raison. Mais moi, j'adore écouter des gens qui ne sont pas d'accord avec moi. Si on n'écoute que des gens qui sont d'accord avec vous, c'est chiant.
Mais c'est l'intelligence.
Voilà. Donc, d'écouter des gens en disant « Ah, ça, quand même, c'est un bon argument, etc. » Donc, je pense que cet effort-là intellectuel, il est nécessaire de discuter, de parler, d'argumenter. Parce qu'aujourd'hui, j'ai le sentiment, et là, je pense que c'est la même chose au Québec, mais c'est pareil en France et dans tout le reste de l'Europe et voire du monde, on est ancré dans des certitudes et on se met à ne fréquenter que des gens qui ont les mêmes certitudes que vous et ça empêche d'avancer. Et on arrive surtout à une limite à la liberté d'expression.
Ouais.
Si un mec ose dire un truc à la radio, par exemple, comme moi aujourd'hui, je vous assure qu'en tant qu'artiste aujourd'hui, quand on va à la radio, on surveille tout ce qu'on dit.
On n'a pas le choix.
Parce que s'il suffit qu'on sorte un bout de phrase, et là, alors là, pour se sortir de ça, et après c'est sur Wikipédia, et c'est parti.
Ah ouais.
Et tu dis, non, j'ai pas dit ça. Tu vois, j'ai pas dit comme ça. Voilà. Donc, il faut revenir. Moi, je pense qu'il y a eu plein de choses nécessaires là. Il fallait aller dans les extrêmes parce qu'il y avait des choses nécessaires à changer. Il faut toujours aller au bout du truc. Je vais prendre le féminisme, par exemple. Il faut aller très loin, trop loin, pour obtenir un juste milieu. Ça, c'est le problème de toutes les luttes. Pour faire des révolutions, il faut aller un peu trop à l'extrême pour revenir à un juste milieu. Mais il y a des moments, j'ai vu des gens se partir dans les trucs. Mais non, c'est pas ce qu'il a voulu dire. Il a juste émis un doute. Bon. Voilà, il faut pouvoir discuter, il faut rencontrer, il faut dire « Attends, tu te trompes, c'est pas exactement comme ça que ça se passe, etc. etc. » Par exemple, moi, un truc où là, je suis définitivement français, sur la galanterie. La galanterie, quand j'entends aujourd'hui des féministes, par exemple, dire « Faut plus être galant », je dis « On est sérieux, là ?» Il n'y a rien de plus magnifique que d'appeler une jeune femme mademoiselle, que de lui ouvrir la portière avant de monter en voiture, que de payer le restaurant.
Ouais.
Que le machin. Mais, on dit, ouais, non, il ne faut plus. Bah, pourquoi?
Mais M. Lelouch, en tout respect, là, quand j'entends parler ces féministes-là, c'est souvent dans les médias, mais quand j'entends de vraies femmes féministes autour de moi, la galanterie, ils sont pour ça.
Ben,
mais
on dans est les bien médias, d'accord.
Dans mais les on médias, sent parfois mal d'être même pour ça. Ben, je veux dire, moi, je n'ai pas envie d'avoir quelqu'un dans ma vie qui va s'occuper de moi comme étant un pourvoyeur, comme étant quelqu'un, mon sauveur. Mais tu le sais à quel point c'est important, la galanterie dans ma vie. Puis des fois, on se sent mal parce que finalement, est-ce qu'on nuit à la cause des femmes parce qu'on trouve ça charmant ou
ça, c'est
ça
magnifique.
Attirant?
Ça, c'est magnifique comme réflexion. Je vous trouve, c'est brillant ce que vous venez de dire. Ben non. C'est pas comme on se sentirait mal à l'aise si, par exemple, on rentre un soir très fatigué du bureau et que votre femme, pour vous faire plaisir, vous a fait à manger. Est-ce qu'on se dit on nuit à la cause de la femme ou c'est juste un geste de couple?
Puis on est capable d'être galante, nous aussi, envers vous.
Voilà. Donc, en fait, c'est toujours, moi, je dis toujours que c'est l'intelligence qui fait la différence. Par exemple, on a le droit, on peut encore continuer à parler là,
bien
on
sûr,
est trop
bien
long.
Sûr.
Je vais vous donner un exemple qui est magnifique. On a appris, nous, dans notre génération, moi qui suis plus vieux que vous, on nous apprenait que la fille devait jamais dire, quand on faisait la cour à une femme ou une jeune femme, elle devait jamais dire oui le premier soir. Parce que sinon, ça voulait dire qu'elle était une fille facile, etc. Donc, ça voulait dire que nous, on nous apprenait à faire la cour, à revenir à la charge, à dire, OK, je te raccompagne chez toi, elle ne me dit pas de monter, le lendemain d'appeler, quand est-ce que tu es libre à nouveau pour dîner, etc.
Il n'y avait pas le sang oui, c'est non.
À quel moment ça devient du harcèlement,
ouais,
faire la cour,
ouais.
Voilà. Et c'est toujours l'intelligence qui va faire la différence. Le lourd, il sera toujours lourd. Un crétin va toujours être un crétin, comme un con sera toujours un con. C'est malheureux, Brassens l'a chanté il y a des années. Donc, il faut toujours apprendre à ses enfants la différence. Mais je ne sais même pas si ça s'apprend. C'est-à-dire qu'un mec comme moi, qui a eu une maman, qui a des filles, qui a une femme, il paraît évident le comportement adopté avec une femme. Il est évident. Ben, y en a pour qui ce n'est pas évident. Bon, ben, ces mecs-là, il faut les dresser. Mais c'est de là à prendre tous les hommes aujourd'hui pour des prédateurs. Par exemple, traiter un mec de boomer, c'est extrêmement insultant parce qu'il a un certain âge. Nous, on est des baby-boomers. Moi, je fais partie de la génération des baby-boomers. Mais qu'est-ce que ça veut dire, cette expression boomer? Le mec, c'est encore une fois, c'est ranger les gens dans des cases.
Est-ce qu'elle a été exploitée avec un certain stéréotype au fil du temps?
C'est ça.
Ça reste juste une description de génération.
De génération. Mais il y a des boomers qui ont fait avancer le monde merveilleusement.
Ben, dans chaque génération, il y a des gens qui ont nui, il y a des gens qui ont
oui. Donc, c'est ça, exactement, on est bien d'accord.
Donc, Philippe Lelouch, dans son spectacle que vous allez donner le 9 octobre prochain, bon, vous parlez
j'étais très sérieux,
de vos souvenirs d'enfance. Ouais. Vous faites beaucoup d'autodérision aussi. Est-ce que vous êtes un homme avec certaines névroses?
Bon, j'en ai mille, évidemment. Ouais. Évidemment, la première, c'était la peur de ne pas être aimé, hein, je pense. Moi, je pense que ce métier-là, on le fait parce qu'il y a un besoin surdimensionné d'être aimé, d'amour, etc. Je pense. Faire rire, pour moi, c'est l'aristocratie de l'élégance.
Est-ce que c'est un besoin qui peut être assouvi, ça? Avoir constamment
non.
besoin d'amour?
Non, ça ne l'est jamais.
C'est triste?
Oui, probablement. Mais c'est un moteur.
Parce que vous vivez dans les yeux des gens plutôt que de vivre votre propre vie?
C'est un peu plus complexe que ça. C'est un peu plus complexe que ça. C'est, on a besoin insatiable de se sentir aimé, ce qui est totalement illusoire, parce qu'on peut être, on peut pas être aimé de tout le monde, ça on apprend vite à le savoir. Avec l'âge, il y a même une petite délectation à être détesté de certains, parce que souvent, tu sais, moi je dis toujours la meilleure façon de ça. Tu sais, des fois on se dit, je sais pas ce qu'il pense de moi. Quand quelqu'un me dit ça, je dis, demande-toi ce que toi tu penses de lui et tu auras la réponse. C'est très facile, hein, en général. La sympathie et l'antipathie, c'est le cri des gènes. Hein. Donc, mais...
Vous pensez que c'est toujours en double sens?
Ouais, je crois.
Le fait de ne pas s'apprécier?
Ouais, je crois.
Oh. Oui, les idiots qui ne s'en rendent pas compte aussi, mais...
Oui, c'est ça. On sent, c'est une histoire d'onde. Il y a un truc... comme vous savez, des fois, vous rentrez sur scène, tu te dis, ce soir, ça va être difficile. Tu vois, mais parce que tu sens que les gens... Bah, parce que, je sais pas, parce que c'est comme ça. Il y a des flux et il y a des gens qu'on rencontre. Moi, je crois au coup de foudre amoureux. On rencontre une femme, elle rencontre un homme, bam, il se passe un truc... C'est indescriptible. Voilà, c'est comme ça. Et l'amitié, c'est pareil. Je crois que c'est le cri des gènes, moi, la sympathie et l'antipathie. Il y a un truc presque... Mais ce qui est joli, d'ailleurs, ce qu'il ne faut pas chercher à comprendre plus que ça.
Êtes-vous toujours heureux en France?
C'est pas la France, c'est l'époque. Voilà, je trouve que c'est... Voilà, en supprimant le slow, pour revenir à des choses plus légères, on a supprimé ce rapprochement possible. Je pense que les gens ont de plus en plus de mal à se rapprocher et à s'accepter. Et moi, alors, c'est pour ça que je crois que je fais rire. Il y a quelque chose de thérapeutique là-dedans.
De collectif.
Ouais, hein. c'est le seul rassembleur que je connaisse. Mm. Quand tout le monde rit au même truc, il y a un truc qui se passe. Quoi,
tant que ça, vous avez senti l'individualité prendre beaucoup de place à ce point-là dans votre société en,
moi, je trouve,
en France? Oui.
Je trouve que les gens se tolèrent de moins en moins.
Pourtant, vous habitez très près les uns des autres. Il y a vraiment quelque chose de différent par rapport au Québec. Vous n'avez pas les grandes cours, les grands espaces que nous, on a.
Alors ça, vous venez de me rappeler un truc. C'est un Québécois. Alors là, il faut que je vous dise cette phrase parce qu'elle m'a marqué, mais définitivement. Je tourne Michel Vaillant ici, à la Malbaie, il y a plus de 20 ans. Et on nous dit un jour, venez, on va faire... Nous, on voulait tous le week-end aller faire, évidemment, de la motoneige.
Ah, ben oui, c'est les fameux touristes. Hein. Ben on va aller voir Montréal, Sept-Îles, puis après ça, t'as du sac
évidemment.
En 3 jours.
Nous, c'est génial, le motoneige. Ouais. Et là, on nous dit non. Les assurances, on a besoin de vous sur le film. Si vous arrivez un accident, donc les assurances refusent. Et là, ils nous proposent ce truc surréaliste, c'est faire du traîneau. C'est pas mieux. Ça fonce, ça peut être bon.
Oui.
Et là, je me retrouve, je vous mets dans le contexte, vous allez voir le rapport avec ce que vous venez de me dire. Et je me retrouve en plein milieu de la Malbaie, chez un type super beau gosse, avec une femme magnifique, 3 ou 4 enfants sublimes. Et je me dis, il n'a pas du tout le profil du mec qui élève des chiens de traîneau, quoi. Tu vois, moi, j'imagine.
Ah non, vous attendiez avec le casse de poêle. Parce que Ricardo a fait de mauvaise presse, là. C'est notre trappeur-chasseur de votre bord.
On voit un type comme ça. Tu vois, j'imaginais le mec qui vit tout seul. Bon, et le mec, beau gosse, bien habillé, etc. Et au bout d'un moment, je lui dis, qu'à l'époque, devait avoir 35 ou 40 ans. Et je lui dis, oh mec, c'est marrant, j'imaginais pas du tout comme ça. Et je lui dis, mais t'as toujours fait ça? Il me dit, bah, pas du tout, je vais pas faire l'accent québécois, j'aurais peur d'en vexer. Il me dit, bah, pas du tout, j'étais trader. Je lui dis, trader? Il dit, ouais, à Montréal. Je lui dis, t'es passé de trader à Montréal à éleveur de chiens de traîneau au fin fond de la Malbaie.
Un gros poste en finance, là, pour ceux qui...
Ouais, un gros poste en finance. Et je lui dis, mais pourquoi? Il dit, parce qu'à Montréal, il y avait trop de monde. Et il me fait cette phrase géniale, il dit, les hommes, c'est comme les pommes, plus tu les entasses, puis plus elles pourrissent.
Oh!
Wow. Magnifique, non?
Ouais.
Et ça, il m'a dit ça.
Et vous revenez avec la France là-dedans.
Et tu vois? Et je reviens. Et aujourd'hui, tu me donnes la possibilité de sortir cette phrase qui m'a beaucoup marqué. Et je trouve qu'il a raison. Voilà.
Stand Alone, c'est le nom de votre spectacle, Philippe Lelouch. Les billets sont en vente à partir de demain 10h sur gestev.com. Ça a été un plaisir de vous
partager.
Rencontrer. Merci. Je vous souhaite une belle première au Capitole de Québec le 9 octobre prochain. Puis quand vous serez de passage à Québec, vous êtes invité en studio. Quand vous voulez, vous êtes bien sympathique.
Et vous venez me voir, hein?
Absolument.
Ça me fera trop plaisir.
Excellent. Hein?
Merci beaucoup.
Merci beaucoup.
Merci.
Au revoir. Philippe Lelouch, l'humoriste Stand Alone, qui sera présenté le 9 octobre prochain au Capitole de Québec. Marceau le midi.